Hey, c'est la première fois qu'on fait un épisode en deux fois.
C'est la première fois, je pense, on n'avait pas...
Ah non ! Oui, t'as raison, si. L'épisode sur les... une liste de films qu'on a fait en deux parties, une liste de séries, une liste de films, je sais plus.
Mais je sais pas si on avait enregistré en une fois, là on enchaîne.
ah non, on avait enregistré en deux fois, t'as raison. Donc c'est bien la première fois. Bienvenue à tous sur le canapé de Popcorn Therapy, servez-vous une tasse de thé, café ou un pumpkin spice latte et c'est parti pour une session blabla autour des séries et du cinéma.
Ici, pas de prise de tête ni de distinction entre cinéma d'auteur et cinéma commercial. On parle de tout ce qui nous plaît en toute simplicité. Et on vous conseille fortement d'écouter la première partie de cet épisode consacré à Dune. Puisqu'on avait tellement de choses à dire sur ce film qu'on s'est dit, pour vous éviter un épisode de 2h30, qui est la durée du film, hein, mais on va vous le séparer en deux parties, comme ça, ce sera plus digeste. Et puis, de toute façon, Denis Villeneuve a bien décidé de faire son film en deux parties, donc pourquoi pas nous.
Exactement. Et en parlant de ça, Thibaut m'a quand même demandé, comment vous faites pour faire un film qui dure, enfin, un épisode qui dure autant de temps que le film ? Bah, on est bavarde, je sais pas.
Bah oui, mais il y a tellement de choses dans ce film, forcément. Là, on a parlé du contexte, on a parlé de notre avis sans spoiler, on a parlé d'un petit guide de visionnage. Voilà, c'est déjà pas mal. Et là, on va être du coup full spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu Dune, on vous conseille d'autant plus d'aller écouter le premier épisode et de voir le film avant de vous attaquer à celui-ci.
Exactement. Et on va commencer du coup par... alors, c'est pareil, si vous voulez notre avis général, dans l'épisode 1, vous l'avez. Mais globalement, on peut vous dire, on a aimé.
Sinon, on ferait pas deux épisodes dessus.
Non, je pense pas. Mais du coup, on va commencer par vous expliquer un petit peu ce qu'on a aimé. Et la première chose, c'est que c'est une expérience visuelle et cinématographique absolument grandiose.
Ah ouais, bon, je m'en doutais un petit peu, connaissant, enfin, ayant vu les deux derniers films de Denis Villeneuve, donc Blade Runner 2049 et Premier Contact, qui étaient déjà visuellement sublimes. Et là, on retrouve sa patte, en fait, il a ce don de nous immerger dans un monde immense. Et là, je trouve dans Dune encore plus, il y a vraiment cet effet waouh de choses complètement surdimensionnées. Et en plus, il y a ce côté très réel, en fait, qui renforce en plus l'immersion. Il a quasiment pas utilisé de fond vert. Ça fait vraiment vrai, en fait. C'est palpable, en fait, comme monde. On parlait dans la première partie du grain de sable et de l'épice, la manière dont c'est filmé. On le sent, quoi. Et il manquerait plus que cette petite odeur de cannelle dans la salle, et ça serait parfait. Et le design des vaisseaux, j'ai trouvé ça génial. On va reparler, je crois, plus tard des costumes, mais j'ai adoré tous les détails dans le décor encore plus quand on le voit plusieurs fois, ce qui est mon cas, je le rappelle. Je me suis beaucoup plus à certains revisionnages intéressée aux sculptures qu'on voit dans le fond, aux détails de tous les petits instruments, tous les petits objets. En fait, on sent qu'il y a plein d'histoires, en fait. Dans chaque image, il y a plein d'histoires qui donnent envie d'en savoir plus sur ce monde. Donc ouais, j'ai adoré cette partie-là. C'est vraiment ce qui m'a permis de plonger dedans et d'avoir envie d'en savoir plus. Je sais pas, tu veux rebondir là-dessus?
Non, je pense que t'as tout dit, effectivement. Moi, c'est le visuel qui m'a eu. Je suis pas très contemplative de base. Tu vois, par exemple, j'ai quand même été voir pas mal de films... asiatique, japonais, donc j'ai parlé d'hospitalité dans un de nos épisodes récemment, et d'habitude, je m'ennuie un peu, enfin en tout cas je m'ennuie facilement, mais là t'en prends tellement plein les vœux, plein les yeux, enregistrer deux épisodes à la suite c'est fatigant, je vais dire beaucoup de bêtises, non on en prend tellement plein les yeux que non on s'ennuie pas et c'est juste magnifique, et moi j'avais pas vu Blade Runner, parce qu'il me tentait pas, dans mes souvenirs. Par contre, j'ai vu Premier Contact et effectivement, j'ai bien retrouvé la patte de Denis Villeneuve.
Ouais. Et alors, j'ai quand même un bémol sur ce côté immersion, en fait, dans le monde. C'est que c'est quand même un peu froid et un peu distant dans l'ensemble. Et en fait, moi, par rapport à ce que j'aime aussi dans la fantasy, dans la science-fiction, j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de vie, au sens de vie quotidienne du peuple, en fait. On reste vraiment, pendant une grosse partie du film, qu'avec peu de personnages, finalement. Enfin, il y a beaucoup de personnages, mais les scènes ne sont pas très peuplées, ou alors quand on voit des foules, c'est de très très loin. Et en fait, un truc tout con, mais j'étais un peu frustrée qu'on ne voit pas à quoi ressemblent les rues de la ville Arrakine, en fait, dans laquelle ils arrivent. On survole la ville, en plus c'est une ville qui est complètement couverte, et du coup, dès qu'on survole cette ville, je me dis, mais on voit rien du ciel. Moi, j'ai envie de voir au ras du sol, quoi. Et en fait, on rencontre pas la population. On voit juste les guerriers. Tout est très distant ou très guerrier. Et c'est vraiment une des... Ouais, bon, c'est fidèle au livre. Hein. C'est comme ça aussi dans le livre. Mais voilà, c'est une des rares choses qui me manque. Et que du coup, j'ai hâte... Je sens qu'avec les Fremen, ça va être différent puisqu'on va être vraiment au cœur de la vie Fremen, je pense. Donc j'ai hâte... qu'on ait ça dans la suite, mais voilà, c'était ma petite frustration.
Ben moi, ça m'avait pas du tout... Enfin, ça m'a pas manqué quand j'ai vu le film, mais effectivement, quand tu m'en as parlé, je me suis dit « Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est dommage. » Et typiquement, j'ai beaucoup aimé la scène où... Alors, je me rappelle plus du nom du personnage, mais Jason Momoa explique les outils,
oui,
des Fremen, ce qu'il a appris d'eux, ce qu'il sait d'eux, etc. Ou quand même Paul regarde ses vidéos, alors ses vidéos en hologramme, c'est assez marrant, où ils expliquent voilà les Fremen, la danse du sable, tout ça. Et en fait, ça m'a donné envie d'en savoir plus. Ouais. Et j'ai aimé ces moments-là. Mais je suis sûre que dans le 2, il y en aura.
Ouais, mais tu vois, le fait que Paul y regarde ses vidéos, c'est pareil, j'ai bien aimé parce que ça nous donne en plus du contexte. Mais il est seul, tu vois. Et du coup, il est souvent seul. Et c'est pour ça que, pareil, j'adore cette scène avec, du coup, Duncan, donc le personnage Duncan Idaho et Gurney Halleck, le personnage de Josh Brolin, parce qu'ils sont au milieu des hommes, des hommes de Caladan, des hommes de la maison Atreides, et il y a ce côté vraiment genre camaraderie, ce côté très humain et chaleureux. En plus, on sent qu'il y a cette espèce de foule là, des soldats. Tu vois, il me manquait, tu vois, de quelques personnages de soldats qui ne serait-ce que prennent la parole, en fait, parce que on sent que les soldats du duc Leto, ils sont complètement derrière leur duc, et ils sont tous Atreides. Enfin, tu vois, il y a ce côté vraiment. Je sais pas, j'avais envie d'en avoir un peu plus. Et heureusement, dans le film, dans le livre, j'en ai eu un petit peu plus, mais pareil, ça reste quand même très froid et distant, quoi. Mais il y a un peu plus de moments un peu plus chaleureux, j'ai trouvé, dans le livre, à ce niveau-là.
D'accord, bah écoute, je te dirai ça quand je lirai le livre. On va faire un autre épisode avant la sortie du 2.
Alors, pour enchaîner sur d'autres choses qui nous ont plu, c'est toujours sur... le visuel, il y a quand même des scènes hyper marquantes. Je sais pas quelles sont tes scènes préférées, Charline, mais moi, je sais pas. En plus, bon, on en a vu plusieurs fois. À chaque fois, j'ai des frissons sur cet enchaînement, en fait, du départ de Caladan et de l'arrivée sur Arrakis, avec la musique, en fait, déjà, où on voit ce vaisseau sortir de l'eau, là, et puis après, il décolle. On a Paul sur la plage, et puis après, ça enchaîne sur Arrakis, il descend, il y a les cornemuses, il y a le sabre. J'adore tout cet enchaînement, là, de cette séquence.
C'est mon passage préféré aussi. On en parlera dans le après, dans ce qu'on a un peu moins aimé, et c'est ce qui fait que j'ai un peu moins aimé. Enfin, c'est ce qui fait que j'étais un peu déçue par la suite, c'est que j'ai pas retrouvé ce moment fort après.
Ouais.
Mais effectivement, c'est mon moment favori, quoi.
Bah moi, tous mes moments favoris sont concentrés en fait dans les deux premiers tiers du film, puisque il y a ça, il y a l'attaque du ver des sables sur la moissonneuse, qui est toute une séquence, mais
ouais,
qui est trop bien.
Bah, je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai été mitigée par cette scène. Je ne saurais pas l'expliquer. En fait, j'ai le tout début, si, quand t'as cette espèce de décompte, il arrive dans 5 minutes, il arrive dans 4 minutes, j'étais hyper angoissée, stressée, et j'ai adoré. Et puis, au final, la conclusion, du coup, j'étais là, bon, Ok, oui, c'est impressionnant visuellement, mais voilà, on voit juste le gros ver manger ça. Et je me suis juste posé la question, du coup, il peut manger tout, du coup, il peut manger des cailloux peut-être. Et après, plus tard, on voit qu'en fait, non, il mange pas de cailloux. Alors je dis, ah, bon, voilà. Mais effectivement, le décompte, je l'ai trouvé très angoissant et j'ai beaucoup aimé.
Ouais, j'adorais le décompte quand ils suivent tout ça de haut avec la radio et tout ça. Et puis la décision du duc Leto d'aller sauver les hommes. Enfin, je sais pas,
Ouais.
je trouve que c'est aussi le moment où je commençais déjà à adorer ce personnage d'Oscar Isaac. Mais là, tu vois, ce moment où en fait il pilote lui-même le vaisseau et il décide d'aller sauver les hommes et de tout faire pour sauver les hommes. Et tant pis pour les pistes, tant pis pour le matériel. Alors qu'on a compris à quel point c'était. Enfin, c'est une valeur tellement énorme, l'épice. Et je sais pas, ça m'a fait donner des frissons. Et à chaque fois, ça me donne des frissons. Et ouais. Et ce côté, ouais, le petit côté de stress où t'as Paul qui rentre dans sa transe et tu dis, mais bouge-toi, mais bouge-toi. Et du coup, Gurney qui arrive. Enfin, ouais, j'adore cette séquence. Mais hein,
Ouais.
c'est vraiment. Puis la musique. C'est la séquence de cette. La musique sur cette séquence, c'est celle que j'écoute le plus sur la BO.
Ouais, je comprends. Je comprends, je comprends. Et moi, la dernière scène, je pense que c'est la même du coup pour toi, c'est le bombardement
Ah ouais.
d'Arakin à la fin. Enfin, à la fin.
Non, non, justement, c'est
Qui
pas
se
la
passe
fin.
justement, c'est pas la fin. Au
La fausse
début.
fin.
La fausse fin. Qui est impressionnant, quoi. Qui pareil. Mais en fait, c'est ça, c'est des scènes qui t'en mettent plein la vue, mais sans non plus être dans l'excès d'effets spéciaux, d'action, quoi que ce soit.
Ouais, sans l'excès d'effets numériques, quoi. On
Oui,
sent,
c'est ça,
y
c'est
a
ce que
du
je
numérique,
recherchais.
c'est évident, mais ça fait vrai, quoi. Enfin, ça, on voit pas. Enfin, c'est. Et puis en plus, comme c'est dans la nuit, avec ces trucs qui s'illuminent tout d'un coup. Encore une fois, la musique. On
Mais
retrouve les cornemuses sur la charge de Gurney Halleck face aux Harkonnen. C'est. Ouais. Et puis cet effet là, des bombes qui rentrent à travers les boucliers et qui explosent, là, ça, je sais pas, ça m'a fait penser à certains effets dans Star Wars, l'effet de certaines bombes. Ça, ouais, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé.
Je suis en train de me dire qu'on devrait compter à la fin combien on a dit Star Wars.
C'est vrai. En plus, on avait dit qu'on ferait des, on ferait pas, on ferait, on gardait de côté les comparaisons Star Wars Dune, mais.
C'est pas possible. C'est pas possible. Mais on n'arrête pas de parler de la musique, alors enchaînons avec la musique tout de suite. Parce qu'effectivement, elle est incroyable. Et elle est composée par Hans Zimmer, on l'a dit. C'est sa deuxième collaboration avec Denis Villeneuve, appelée Blade Runner 2049. Et il travaille dessus depuis mars 2019, et il a dû pour ce faire renoncer, et c'est pour ça qu'on en avait parlé au film Tenet 2020, enfin, Tenet 2020. Oh, je suis vraiment fatiguée, hein. Je pense que plus jamais on enregistre deux épisodes à la suite. Tenet 2020. Le film Tenet sorti en 2020 de Christopher Nolan, avec qui il collabore depuis 2005 avec Batman Begins. Donc voilà, on l'avait dit, on s'était dit, bon, c'est dommage qu'il fasse pas Tenet, même si au final ça nous a permis d'avoir une BO quand même
Oui,
exceptionnelle pour
Ludwig
Tenet.
Göransson, génial, quoi.
Voilà, génial. Mais au final, il a quand même eu bien fait Hans Zimmer, parce que c'est juste incroyable et
Ah
j'aurais
ouais.
jamais imaginé une autre musique
Ah ouais.
que
Non,
celle-là.
il a fait un boulot de fou et j'ai trop hâte d'avoir des making-of ou pour avoir vraiment tout le processus qu'il a derrière parce qu'on sent qu'il a travaillé, mais comme un taré. Et j'ai vu pas mal de. Parce que je me suis fait aussi un binge-watching d'interview de Denis Villeneuve et il parle pas mal du coup de sa collaboration avec Hans Zimmer sur ce film. Et en fait, Hans Zimmer, c'est le premier à qui il s'est adressé quand il a dit. Bon, on me propose Dune. Qu'est-ce que t'en penses? Et parce qu'ils savaient qu'ils avaient dû déjà en parler, que tous les deux, ils sont ultra fans depuis qu'ils sont ados, quoi, depuis qu'ils sont jeunes, de Dune, des romans. Et Hans Zimmer, j'adore, il y a un moment, Denis Villeneuve raconte quand Zimmer lui a dit, t'es vraiment sûr qu'il faut qu'on fasse notre plus grand rêve parce que ça serait. une fois que ça sera fait, bah, on l'aura fait. Et c'est toujours un peu risqué d'accomplir ses rêves, quoi. Et je sais pas, j'imagine trop dire ça. Et en fait, ce que ça a donné concrètement pour Hans Zimmer, c'est que il était tellement à fond qu'il a fait beaucoup plus de musique que nécessaire. À tel point qu'il n'a pas fait un, mais trois albums. Donc, il y a la BO, qui est sortie en même temps que le film chez nous. Il y a le sketchbook qui est sorti un tout petit peu avant et qui est aussi, que je conseille, qui est assez intéressant aussi. Ça, on retrouve les thèmes, mais on sent que c'est un peu plus Hans Zimmer qui se lâche sur l'ambiance, enfin, sur tout ce qu'il avait envie de faire sur ce film. Et il y a aussi un album à venir qui est censé être l'album à écouter en lisant le livre Making Of.
D'accord.
Donc c'est quand même assez exceptionnel d'avoir une BO pour le livre Making Of.
D'ailleurs, le livre Making Of me fait particulièrement envie.
Oui, je pense que ça va être un must. Ouais.
Ouais, tout à fait.
Il n'est pas sorti encore, je crois.
Non, non plus j'avais regardé, je ne l'avais pas vu. Peut-être quand l'épisode serait sorti, le livre serait sorti, mais pour l'instant, non.
Alors après, ce n'est pas une BO qui est facile à réécouter, parce que moi, j'écoute énormément de BO en travaillant, en faisant plein de choses, voilà. Là, j'avoue, Dune, c'est un peu difficile à mettre en fond.
Non, ce n'est pas ça, en fait. Pour moi, ça retranscrit vraiment des moments, des bruits, une ambiance. Et du coup, à écouter sans les images, c'est moins intéressant.
Ouais, mais il y a vraiment ces percussions qui sont juste incroyables, puis ces voix de femmes aussi qui prennent tout de suite aux tripes. Ouais, j'adore.
Bon, on est obligé de mettre un petit extrait.
Oui.
Juste du coup par dire que pour moi, ce qui est aussi hyper captivant dans cette musique qui prend, comme t'as dit, qui prend aux tripes, c'est qu'elle retranscrit vraiment parfaitement l'atmosphère et le côté futuriste. Je trouve que quand on va l'écouter, ça colle, ça matche tout de suite avec le film et c'est pas forcément gagné.
Mm-hmm. Bah ouais, c'est ce côté futuriste, c'est ce côté très aussi tribal, parce qu'on sent quand dès que ça a trait au Fremen, on sent qu'il y a une espèce de chose, et à trait au désert, il y a ce côté très organique, quoi.
Ouais.
Ce futur très organique, comme on l'a dit, dans la première partie, il n'y a pas de technologie hyper flashy, quoi. C'est très organique, comme
ouais, non, c'est vrai. Mais je pense que Si on enlève Lin-Manuel Miranda, qui est certes un compositeur, mais...
Je me demandais quand est-ce qu'on allait pouvoir l'aider.
Non, mais j'ai pas fait exprès. C'est une vraie raison. J'allais dire que Lin-Manuel Miranda, c'est un compositeur, mais pour moi, c'est surtout un parolier, enfin, un compositeur de chansons plus que de musique de film, même si c'est des musiques qui se retrouvent dans des films. Du coup, si on l'enlève, lui, parce qu'il est à part, pour moi, je pense qu'Hans Zimmer, c'est un de mes compositeurs de musique de film préférés. Je pense...
Ouais, bah moi j'aime beaucoup. Après j'en aime énormément, donc je saurais pas dire lequel je préfère, mais parce que j'aime beaucoup Ramin Djawadi, j'aime beaucoup James Newton Howard, John Williams évidemment. Enfin,
oui.
Mais c'est vrai que Hans Zimmer a tellement fait de BO emblématiques.
C'est ça. Et en fait, ce qui m'impressionne, c'est que pour moi, il est vraiment dans des styles des fois totalement différents. Il arrive tout le temps à se renouveler.
Oui, et pourtant, on lui a reproché parfois de commencer un peu à faire tout le temps la même chose. Et là, je pense que pour ceux qui, les détracteurs qui commencent à dire ça, bah voilà, d'une, bah voilà, ça va les
C'est un
remettre
contre-exemple, voilà.
à jour. Bah non, quand Hans Zimmer est vraiment à fond sur un projet, bah il produit vraiment quelque chose de complètement unique, quoi. Donc, ouais, je pense que l'Oscar, la musique, il va falloir aller loin pour
J'espère.
lui voler, hein.
J'espère. On verra bien. Une autre chose qui pourrait gagner l'Oscar d'ailleurs,
Tout à fait.
c'est les costumes
Ah, ouais.
qui sont impressionnants. Je trouve que que ce soit les matières, les couleurs, ça donne totalement une dimension sensorielle unique. Et j'ai eu cette sensation d'assister à un défilé un peu de haute couture. Non, mais c'est vrai que les tenues des fois. Alors, quand on parle de costumes, je pense tout de suite à la fameuse combinaison là qu'ils ont dans le désert. Mais quand tu regardes les tenues de Dame Jessica, les tenues
Ah,
de Bene Gesserit,
cette... Ah ouais, c'est vrai,
c'est incroyable au final. Hein, ça pourrait vraiment être des tenues de haute couture. Et donc du coup, ces costumes, ils ont été designés, on va bien, par Jacqueline West et Bob Morgan. Et alors, j'ai un peu regardé ce qu'ils avaient fait parce que je me suis demandé s'ils avaient déjà fait d'autres costumes. Je me doutais qu'ils avaient déjà fait d'autres costumes, mais
Non,
voilà,
non,
je
c'est les
me.
petits stagiaires qu'ils ont fait.
Oui, bon, mais du coup, c'est pas les noms que tu retiens, tu vois,
Non.
autant les compositeurs de musique, tu sais. Du coup, je voulais aller voir ce qu'ils ont fait. Donc, Jacqueline West, c'est celle qui a fait l'étrange cas de Benjamin Button ou The Revenant. Alors, ça m'a pas marqué plus que ça. Et Bob Morgan, si, par contre, il a fait Maléfique. Tu vois, la costume de Maléfique,
Ah
quand même.
oui, ouais, c'est des très beaux
Voilà.
costumes.
Non, mais parce que l'étrange cas de... Ça se dit bien l'étrange cas de Monsieur
Je
Benjamin
me
Button en
souviens
français?
pas.
J'ai un doute.
L'incroyable
Enfin,
histoire de Benjamin Button, c'est pas ça?
Ah, peut-être ça, ouais. Bon, Benjamin Button, je vais toujours appeler comme ça. Donc, autant Benjamin Button, il n'y a pas de... Enfin, c'est des costumes liés à une période, mais c'est pas... Il n'y a pas de costume waouh. Autant Maléfique, si, du coup,
Oui,
quand
il y a une
même.
création.
Voilà, une création. Et donc, oui, ce binôme a déclaré à Variety qu'ils avaient créé 1000 looks pour englober la variété des costumes à travers les mondes, et qui se sont inspirés un peu de partout, y compris des films de David Lean, Lawrence d'Arabie. Et effectivement, ça se passe
Ouais.
dans le désert. Ça
Bah
sent un
oui,
peu.
avec toutes ces drapés, tout
Oui,
ça,
c'est ça.
c'est... Ouais.
Comme dans Kaamelott. Il y a aussi, je pense que pareil, j'ai dû avoir une inspiration, bon là dans le sens inverse, mais dans Kaamelott aussi, où tu sais,
Oui.
Clovis Cornillac, il a... s'est
Ouais.
drapé autour de lui dans le désert. Bon.
Ça.
Et effectivement, ils se sont inspirés aussi des vêtements des habitants du désert comme les Bédouins, des marques de mode comme Balenciaga, des mythologies grecques et romaines, des œuvres de Francisco Goya. Enfin, en gros, ils ont pris plein, plein, plein d'inspirations différentes pour bien différencier tous les mondes et les peuples différents.
Ouais, on a tous les Atrides qui ont un espèce de début de costume qui fait très presque Première Guerre mondiale, tu sais, avec leurs épaulettes, leurs trucs et tout. Il y a surtout, enfin moi, surtout en ayant revu le film hier, je suis totalement fan du manteau de du manteau de Paul quand il est sur Caladan, ce beau manteau noir là qui lui va mais
Ah
tellement mais parfaitement
oui.
bien. Bon, c'est Timothée Chalamet
Timothée
évidemment.
Chalamet, tout lui va parfaitement bien.
C'est clair, mais ce manteau, mais oh là là, mais quelle beauté, quelle beauté.
Ouais, je
Non,
suis
c'est juste un
d'accord.
manteau noir, mais il est cette coupe est juste splendide.
Et puis le dernier costume aussi, on en a parlé vite fait, c'est ces combinaisons là qui sont. Alors j'ai lu, pareil, j'ai regardé quelques interviews de Denis Villeneuve, de Zendaya. D'ailleurs, on n'a même pas cité Zendaya dans notre casting.
C'est vrai.
La honte. Bon après, on la voit très très peu. Hein. Elle a
Ouais.
fait que, je crois qu'elle a fait que 3 ou 4 jours de tournage. Et c'était une des déceptions d'ailleurs parce que au final, je m'attendais à la voir plus, sachant qu'en plus elle faisait l'intro. C'est elle qui nous fait l'intro, puis finalement tu la vois dans les quelques visions, et puis après 10 minutes à la fin. T'es là, bon,
Ouais,
ok.
on va revenir là-dessus sur
On
la
reviendra là-dessus plus tard. Enfin bref, et donc du coup il disait que dans une interview que c'était très compliqué à porter parce que ça tenait très très chaud. Donc quand il faisait froid, ils étaient hyper contents de tourner des scènes avec, et puis dès qu'il faisait chaud, ils en pouvaient plus. C'est ces style suites là.
Ouais, en français, j'aime beaucoup la traduction française, c'est les distilles.
Et bah moi j'ai lu que du coup Jacqueline West, elle avait été consultée ceux qui ont fait le costume de Black Panther
Ah ouais.
pour avoir voilà des idées ou comment designer ça. Ouais, je trouvais ça intéressant. Petite
Ouais.
anecdote.
Non, c'est pas bête. Après, la manière dont fonctionne, enfin, on s'en rend pas autant compte. Bon, on se rend compte qu'ils boivent leur sueur, hein, mais quand même, quand tu vois dans le détail, dans les livres, comment fonctionne ce truc, c'est un peu dégoûtant.
Ah ouais?
Bah oui, parce qu'en fait, en gros, c'est une combinaison qui fait en sorte que, pour faire en sorte que, parce que, en gros, notre corps est composé, je sais pas, c'est toi la spécialiste, mais je crois que c'est quoi, 70% d'eau.
Oh, je crois que c'est 80 même.
Ouais, enfin bref, en gros, on est composé d'une grande partie d'eau qu'on fait, du coup, on doit boire parce qu'on perd cette eau de différentes manières, en urinant, en pleurant, en suant, etc. La plupart, c'est en suant. Et du coup, ce tissue ou distille, c'est vraiment fait pour que toute l'eau qu'on perd, elle soit récupérée, recyclée et qu'on puisse la boire. Donc, imaginez.
Ouais, non, oui, c'est sûr. C'est sûr.
Et c'est pour ça qu'ils ont quelque chose dans le nez. En fait, c'est pas pour respirer, c'est pour récupérer l'humidité. Parce que quand on expulse de l'air, l'eau, enfin l'air qu'on expulse est très humide, puisque c'est l'air de nos poumons, et donc elle est pleine d'humidité. Et c'est pour ça qu'ils ont un masque et c'est pas que pour respirer dans le sable, c'est vraiment pour récupérer l'humidité de notre respiration. Et c'est, ouais, non, c'est de la haute technologie, Fremen.
Ouais. D'ailleurs, j'ai vérifié, c'est 60% en fait d'eau. Tu vois,
Ah,
finalement,
d'accord.
c'est pas tant que ça. Je pensais que c'était plus.
Très bien.
Bon, bref. De toute façon, on aura l'occasion de reparler de Steel Suites et de l'eau des Fremen un peu plus tard. Mais là, en attendant, on va pouvoir passer au personnage de Paul. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est son évolution.
Ouais.
En fait, il y a un truc qui m'a captivé dès le début. Enfin, dès le début. Non, dès qu'on s'en rend compte, quoi, c'est quand il arrive sur la planète Arcadis et chez les Fremen, j'ai la sensation, tu vois,
Arrakis.
que... Arrakis.
Arcadis. C'est pas mal Arcadis, j'aime bien.
Il y a trop de mots compliqués, j'en peux plus. J'ai déjà oublié les noms des différentes maisons, tu vois. Non, il y a trop. Mais d'ailleurs, ça se comprend, on en parlait tout à l'heure en off, mais dans le livre, il y a quand même un lexique qui est
De
énorme. À...
15 pages.
De 15 pages avec tous les mots de vocabulaire. Non, mais quoi? Voilà, quoi. Bref. Donc, quand il arrive sur la planète chez les Fremen, j'ai l'impression que c'est un peu comme une évidence. Comme s'il comprend tout de suite comment il doit faire, comment ça marche. On le voit avec le Steel Suit, dès qu'il le met, le docteur doit vérifier. Et en fait, c'est le seul qui l'a mis à la perfection, qui sait tout de suite comment imiter la danse des sables. Enfin, il est hyper à l'aise. Et en fait, je pense que c'est pour ça que je te dis tout à l'heure, je pense que c'est l'élu, effectivement. T'as l'impression qu'il fait, il faisait partie des Fremen sans le savoir, quoi, que c'est son pays d'origine, qu'il a été adopté, ou j'en sais rien, mais je trouve que, et en fait, c'est quelque chose qui me plaît énormément dans le film, cette
Ouais.
petite subtilité-là.
Ouais, alors moi, c'est vrai que la première fois que j'ai vu le film, comme on le voit étudier Arrakis avant de partir, je me suis dit, oh, j'adore, c'est vraiment le gars hyper préparé. Il a passé, ça fait des semaines qui potasse son sujet
Le
pour
bon
être.
élève.
Voilà, c'est ça. Et tu vois, il dit tout de suite au début, oh, mais vas-y, papa, je peux y aller en avance, je connais la langue des Fremen, c'est bon. Ça fait des années que je me prépare. Et du coup, j'avais plus interprété comme ça. Après, c'est vrai qu'on comprend, tu vois, genre quand il met son distille, c'est pas normal qu'il sache le mettre
Bah
aussi
oui, c'est sûr.
bien. Et puis il y a cette réaction du coup de Kynes, du docteur Kynes ou Kynes, je sais pas comment on dit en français, qui du coup. Il est perturbé, enfin elle est perturbée, je dis il parce que c'est un homme dans les livres, c'est une femme. Mais elle est perturbée par ça. Et en fait, c'est ce que je mentionnais dans le premier épisode, c'est ces fameux signes que du coup, Kynes en tant que Fremen reconnaît et dit. Oh! Et elle dit quelque chose comme ça d'ailleurs, elle dit, oh, elle cite la prophétie, quoi. Il connaîtra nos trucs, nos coutumes, comme s'il était l'un des nôtres. Et elle reconnaît du coup ce signe que c'est lui, quoi. Et du coup, elle est un peu genre, ok, d'accord, très bien, je note. Mais ouais, c'est la danse des sables. Par contre, je pense vraiment que c'est parce qu'il l'a étudié sur les vidéos YouTube.
Oui, mais entre regarder une danse et danser,
Ouais. D'ailleurs, sur
c'est
ces
pas la
fameuses
même chose,
danses,
hein.
j'ai appris que. Je sais plus, dans une interview, il dit qu'il a consulté Benjamin Millepied, le chorégraphe de l'Opéra de Paris, pour élaborer cette danse. et qu'on la verra évidemment beaucoup plus dans la deuxième partie, et qu'il a hâte du coup qu'on la voit plus dans la deuxième partie, parce que pour l'instant on voit des débutants dans la danse des sables, et qu'on verra que ça sera beaucoup plus chorégraphié, beaucoup plus beau et impressionnant dans la dans le deuxième film, et j'ai trop hâte.
Ouais, moi aussi j'ai trop hâte, ça. Et il y a un deuxième point que j'ai beaucoup aimé chez Paul, toujours son évolution, c'est ses visions, parce que
en fait c'est compliqué.
Ouais, c'est ça, en fait tu comprends pas ce qu'il voit, le passé, le présent, le futur, et puis bon, pareil, on en parlera dans la partie ce qu'on n'a pas aimé, mais il y a un truc que j'ai pas aimé avec ces histoires de visions. Mais par contre, ce que j'ai, moi, il y a un truc que j'ai interprété, et du coup, j'ai trouvé ça cool parce que c'était, moi, j'aime bien les trucs subtils que je comprends. Voilà. J'ai l'impression d'être intelligente, qu'on n'est pas obligé de me mâcher le travail. Mais, du coup, je suis contente que ce soit subtil un minimum. Et en fait, j'ai eu l'impression que quand il va tuer le Fremen, là, quand il se bat et tout, et que du coup, il a accepté, bon, ok, venez avec nous. J'ai eu l'impression qu'on voyait cette image dans une de ses visions, mais il mourait à ce moment-là, lui. Et du coup, parce que justement, il refuse de tuer, comme sa mère est en train de l'expliquer pendant qu'il combat. Non, Paul n'a jamais tué quelqu'un. Il a pas envie, quoi. Il a envie d'arrêter le combat. C'est bon, regarde, je suis en train de gagner sur toi, on arrête tout. Et au final, j'ai l'impression que, bah, comme il a vu dans ses visions qu'au final, ça va pas marcher parce qu'il va mourir, il se décide de passer à l'acte parce qu'il sait ce qui va arriver.
D'accord.
Alors après, je sais pas si c'est juste mon interprétation. Mais moi, j'ai eu cette sensation-là, et du coup, ça m'a bien plu, parce que souvent, j'aime pas... Bon, je vais citer un exemple le plus pourri du monde, hein, je vous préviens. Phénomène Raven. Phénomène Raven, série Disney Channel, la fille voit des visions dans le futur, et à chaque fois, en essayant d'empêcher ce qui va se passer, c'est la vision qui se réalise.
Ouais.
Et ça me saoule, je déteste ce genre de truc, tu vois, c'est... Ça m'énerve. Et donc, du coup, là, le fait que, justement, j'avais l'impression que ses visions se modifiaient un petit peu, j'ai bien aimé. Et se trouve, j'ai très mal interprété, c'était pas du tout ça.
Si, bah, je pense que les visions... Enfin, il y a clairement un décalage entre les visions et la réalité. Et ça, j'ai compris dès le premier visionnage, j'ai trouvé ça intéressant, mais du coup, j'étais genre... ok, alors il va falloir que je le revoie pour étudier ça de plus près. Mais du coup, sur ce... En l'occurrence, sur vraiment le duel. Alors déjà, alors là, il m'a fallu le troisième visionnage pour capter. Tu sais, il voit Jamis, donc Jamis, c'est le Fremen qui tue. Il voit Jamis dans ses visions avant et qu'on le voit comme étant un guide. Il dit oui, suis l'ami. Je vais t'expliquer les comment on se comporte dans le désert et tout. Et il a fallu le troisième visionnage pour que je comprenne que c'était Jamis. Que c'était celui qu'il allait tuer. J'ai vraiment, enfin, j'avais pas fait le lien les premières fois que le Fremen qu'on voit dans ses visions, qui dit je vais être ton guide, je suis l'ami, etc. C'était le Fremen qui va tuer. Et du coup, j'avais pas compris ça au début. Mais par contre, ma première interprétation par rapport à ce que tu disais, c'était plutôt par rapport à la voix off. Qui dit il faut se tuer, il faut que Paul Atreides meure pour que le Kwisatz Haderach s'élève, un truc comme ça, et quelque chose comme ça, quoi. Et en gros, il dit quand tu ôtes une vie, tu te tues toi-même. Et du coup, moi, j'avais plutôt interprété la première fois comme une espèce d'accomplissement plus mystique que il tuait symboliquement le Paul Atreides enfant, tu vois, pour devenir le Kwisatz Haderach et puis pour devenir le Messie, enfin l'élu, quoi. Que c'était vraiment et que du coup, en se voyant lui mort, c'était plutôt en voyant qu'il se voyait, il comprenait qu'il devait tuer pour mourir en partie lui-même, quoi. Je sais pas trop si c'est compréhensible, mais que il y a, enfin, en tout cas, la première fois, je l'avais interprété comme ça. Maintenant que j'ai lu les livres, je vois ça encore différemment, mais je veux vraiment pas en dire plus parce que pour le coup, lire les livres, ça a totalement changé ma compréhension des, la manière dont fonctionnent les visions. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est le futur, qu'est-ce qui est pas le futur, les différents futurs possibles, etc. C'est très très compliqué à comprendre, même une fois à avoir lu. Voilà, je le vois un peu différemment, quoi, maintenant. Mais je trouve que c'est intéressant parce que ça laisse, comme tu dis, ça laisse des indices que tu peux interpréter en même temps que tu peux interpréter de manière un peu différente. Il y a plein de niveaux de couches qui se superposent entre les visions que tu revois, celles qui sont différentes. Enfin, par exemple, moi qui m'a fait bugger au niveau des visions, quand il voit, il a à nouveau cette vision de Duncan avec les Fremen, alors que Duncan est mort. Et du coup, t'es genre, mais, quoi?
Ouais, c'est compliqué.
Ouais, comme tu l'as dit. Donc, est-ce que Duncan est vraiment mort? Je ne sais pas.
Moi aussi, c'est sûr.
Donc, ouais, je sais pas. Mais c'est vraiment un des aspects qui, pareil, m'a aussi fascinée dans l'évolution de Paul et du coup, le rôle de ses visions. Et du coup, sa progression, les choix qu'il fait. Est-ce qu'il est coincé dans ses visions et la liberté de choix qu'il a par rapport à ses visions? Enfin, c'est très, très intéressant.
Je viens de penser à un truc. Ouais. J'ai une question. Tu vas pouvoir m'aider. J'en parle maintenant, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire, mais parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre moment où le caler plus tard. Donc voilà, désolée pour cette petite digression. Pardon. Et donc, un moment, on voit un Fremen sur le ver des sables en train de le chevaucher vers la fin.
Oui.
Tu te vois cette scène?
Oui.
Est-ce que, quand le docteur, en fait, c'est parce que quand tu me dis Duncan est peut-être pas mort, est-ce que le docteur qui meurt, on sait pas. Est-ce que pour toi, quand elle mettait les machins là, pour qui font du bruit automatique, c'était pour que attirer le ver de sable, mais hein, loin d'elle, parce que du coup elle avance ailleurs pendant ce temps, non. Ou est-ce que c'est pour justement qu'il l'approche et pouvoir le chevaucher?
C'est ça. En fait, je l'ai compris ouais. Je l'ai pas compris au deuxième visionnage. Je l'ai compris grâce en ayant le livre et en le revoyant, je dis mais bien sûr, mais ah.
Parce que
dans le livre c'est différent. En fait, dans le livre c'est un homme. Il est seul dans le désert. Il a plus de disti. Il meurt. Voilà. Il meurt. Quoi.
Mais il meurt.
Et là, il meurt hein, parce qu'il se fait transpercer quand même. Mais du coup, il y a ce truc où tu comprends pas, parce que la première fois que tu le vois, tu fais, mais pourquoi il sort des crochets? Et pourquoi il attire le ver? Tu dis, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Et du coup, je me suis dit, mais, oh! Et alors, du coup, j'imagine que pour ceux qui connaissent vraiment l'univers et qui ont vu cette scène-là, ils ont dû avoir un moment du genre, oh là là, mais elle va s'en sortir! Et en fait, non.
Non. Bah, alors, la théorie de Thibaut, c'est qu'elle s'en est sortie parce qu'il y a une grotte à l'intérieur du ver.
Ah, mais elle a été transpercée quand même de part en part, hein.
Ouais, mais on voit pas de sang.
Ben non, mais c'est l'eau, enfin, c'est...
Ouais. Oui. Ouais.
Tu sais pas.
Bon, Bon, on verra. Ouais. En tout cas, j'étais hyper contente, du coup, d'avoir compris ça quand j'ai vu l'autre chevaucher.
Ah ouais, bah bravo, parce que moi, j'avais pas pigé, hein. J'avais pas pigé le coup des hameçons, là. J'étais...
Ah, mais sur le moment, j'ai pas compris non plus. Hein. Mais pour moi, j'étais persuadée au départ qu'elle essayait effectivement d'attirer le ver dans un coin pour pouvoir marcher de l'autre côté. Mais je me suis dit, mais pourquoi elle fait pas la petite danse du sable là? Du coup,
je comprenais vraiment qu'elle allait affronter le ver. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle espère faire là, les petits grappins là? T'as aucune chance.
Ouais.
Après, je me suis dit, peut-être qu'elle va les utiliser pour surfer sur le sable, mais je la voyais pas du tout monter sur le ver, quoi. Et du coup, après, j'ai compris, en revoyant, je me suis dit, là, elle dit, ah, mais je suis Fremen, le désert, c'est ma maison. Mm. Et en fait, elle comptait traverser le désert à dos de ver, quoi.
C'est ça.
c'était son plan.
Donc, j'aurais bien aimé voir, mais bon.
T'es grave. Et du coup, ça m'a d'autant plus frustrée, là, en revoyant. Là, ça fait partie, du coup, on peut passer sur peut-être ce point particulier
qu'on a moins aimé.
Qui m'a frustrée. Je sais pas si, je peux pas dire que vraiment que j'ai pas aimé, mais qui m'a vraiment frustrée. C'est qu'il y a tellement de personnages cool qui meurent. Et genre, il est trois quarts des personnages meurent. Et ça m'a...
Moi, tu vois, d'un côté, ça m'a frustrée parce que, bon, typiquement, Duncan...
Ah non, mais j'étais dégoûtée.
J'étais dégoûtée. Mais de l'autre côté, même s'il y a beaucoup de morts, je trouvais qu'on était assez peu touchés, mis à part Duncan, par leurs morts. En fait, j'ai eu cette sensation qu'il y avait trop de personnages et que les relations entre les uns et les autres n'étaient pas tant poussées que ça. Et par exemple, les parents de Paul, moi, tu vois, j'étais quand même touchée hein, par la mort du père parce que j'adore Oscar Isaac, du coup, je m'étais attachée tout de suite, mais je pense que je m'étais attachée, entre guillemets, parce que aussi j'aime l'acteur et donc j'ai adhéré, entre guillemets, tout de suite au rôle, au personnage... Mais au final, je trouvais que sa relation avec Paul était pas tant poussée que ça. Sa relation avec sa femme, pas tant poussée que ça. On sait même pas pourquoi ils sont pas mariés.
Ah, moi, je sais.
On ne spoile pas le livre. Je veux le lire. Non, mais...
Bon, c'est très con. Hein, c'est une raison politique. Ouais.
Mais du coup, tu vois, j'ai trouvé que il y avait pas assez d'approfondissement dans les relations et du coup moi, j'ai pas versé ma petite larme, tu vois.
Ouais. Alors, bon, Duncan, on est d'accord, hein, c'était
Oui, bon,
déchirant.
sauf Duncan.
Voilà.
Sauf Duncan.
Moi, Kain, ça m'a vraiment embêtée parce que j'étais vraiment intéressée par ce personnage et je trouvais qu'elle, en plus, l'actrice, je sais pas, elle avait une présence qui, j'avais, en fait, c'était plutôt son potentiel, en fait, qui a fait que j'étais vraiment saoulée par sa mort, enfin, saoulée, déçue par sa mort. Je me suis dit, non. Enfin, c'est du gâchis. Enfin, j'avais plutôt, voilà, j'avais l'impression que c'était du gâchis de perdre un personnage aussi intéressant aussitôt. Après, pour Leto, par contre, j'ai vraiment été touchée par sa mort parce que, bah, elle est annoncée dès le début, en fait. On sent qu'on le sait qu'il va mourir. Enfin, et puis lui aussi, il le
Oui.
sent. Et du coup, je voyais toutes ces scènes entre lui et son fils à travers, en me disant, oh là là, il va mourir, c'est triste. Et du coup, j'ai trouvé que toutes les scènes entre lui et son fils étaient touchantes. Enfin, le début sur Caladan, j'ai trouvé leur dialogue très, très, enfin, la petite phrase qui dit, quand Paul dit, oh, et si jamais je suis pas à la hauteur, enfin, pas, il dit pas que je suis pas à la hauteur, mais si je ne suis pas à l'avenir de la maison Atreides, et si je refuse, en gros, le pouvoir. Et puis lui, il dit, bah, tu resteras ce qui est le plus important à mes yeux, mon
Oui,
fils.
c'était
T'es
super
genre,
beau.
oh, c'est beau. Et
Ouais.
puis, par contre, effectivement, j'étais un petit peu frustrée qu'on n'ait pas un peu plus entre Leto et Jessica, tu vois, juste cette petite scène, genre, oh, j'aurais dû t'épouser, t'es genre,
Oh,
et
mais
là,
oui, j'étais là.
tu dis,
Oh,
oui,
j'en
j'en veux
veux
oui, pour la prochaine scène, c'est sûr.
plus. C'est ça.
C'est trop triste.
Ouais.
Donc, ouais, ça,
Non, mais du coup.
et puis,
Du
bah,
coup, ouais, moi, ça m'a
visuellement, c'était,
frustrée.
je sais pas, le voir comme ça, de façon un peu christique, là, étendue, c'est dur. Surtout face à cet horrible baron Harkonnen, là. Ça m'a tellement fait chier aussi que lui, par contre, il meurt pas.
Oui, bah ça, par contre, j'allais en parler. Un autre point qui m'a saoulée, c'est que lui, on aurait pu s'en passer et... Je sais pas, le prochain méchant, c'est l'empereur. J'en sais rien, mais...
Ouais.
Ouais,
Bon.
c'est... Mais bon.
Je, par contre, je suis par rapport au Baron Harkonnen, parce que je pense qu'on n'en reparlera pas après. J'ai vraiment aimé son design. Il est répugnant, mais il est impressionnant. Alors que dans le livre, mais il est juste, mais répugnant. Point. Enfin, il est
Ouais.
horrible. Et je suis très très contente qu'ils aient retiré une dimension perverse à ce personnage. Là, il est
Je
juste.
me suis spoil, je me suis fait spoiler. Je
Ah
l'ai
ouais.
lu. La raison qui fait pourquoi il est obèse et qu'il vole.
Ah non, ça j'ai pas,
Ah bon,
ça je
bah
sais
non.
pas, mais non, c'est plutôt vis-à-vis, enfin son, enfin bon, je veux pas spoiler, mais il y a une dimension, on va dire, des sous-entendus sexuels qui sont répugnants.
D'accord, bah, je pense que c'est lié à la raison pour laquelle il a cette allure-là horrible. Mais pareil, je vais pas spoiler. Moi, je me suis fait spoiler sans faire exprès. Mais
Ouais.
je pense qu'ils en parleront peut-être plus tard dans le roman ou dans un appendice.
Ça reste quand même un méchant qui m'intéresse et qui m'intéresse. Bah, enfin, je l'aime moins. Enfin, je le trouve encore plus répugnant dans le livre, mais je lui ai trouvé d'autres intérêts dans le livre. Et dans le film, par contre, je trouve que vraiment visuellement, et puis bah, la performance de Stellan Skarsgård est assez. Ouh. Donc, je serais quand même. Mais c'est vrai que vu la scène de la mort du duc et tout le plan du coup pour le tuer, j'étais tellement mais ah oh, ça m'a tellement fait mal au cœur de voir qu'il était pas passé. J'étais tout
Pareil.
ça pour ça. Genre, bon bah du coup ça a bien marché quoi, cette scène, mais
Ouais.
ouais ça m'a.
Un autre point, moi, que j'ai pas trop aimé du tout, c'est les visions. En fait, j'ai pas aimé le fait de pas les comprendre. Ça, au contraire, je trouve ça cool parce que du coup, on s'identifie beaucoup plus à Paul, voilà, parce que lui non plus, quand t'as des visions, tu comprends pas. C'est un peu comme quand t'as des rêves, il faut tout remettre en contexte. Enfin, est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est le rêve? Qu'est-ce qui s'est passé? Bref. Par contre, il y en avait trop. Et en fait, il y en avait trop de manière répétitive, les
Et
mêmes
trop
choses.
avec Shani, enfin Shani, c'est
Mais
bon.
oui, en plus, non mais j'adore Zendaya, mais
Oui,
au bout
mais
de la
ça
15e
fait. En
vision, tu
plus,
vois sa
j'entends tout le
tête.
monde qui dit ouais, elle fait sa pub de parfum, mais c'est un peu ça quand même.
Ça fait ça, mais oui. Mais tellement, j'en avais marre, j'avais l'impression d'être dans un épisode de Naruto avec les flashbacks à répétition. Et en fait, je trouvais carrément que ça cassait le rythme. que c'est ces coupures là, vision Shani dans le désert exactement qui présente son parfum, j'en pouvais plus.
Arrakis. C'est senteur d'épices.
Ça m'a resté. Donc voilà, grosse déception pour ce truc qui, je pense, du coup, a fait que je suis un peu sortie du film vers le milieu fin et que j'ai trouvé voilà des lenteurs vers le ventre, un peu en ventre mou. Je pense que c'est dû à ça.
Ouais, parce que moi j'adore le principe de vision avec, comme tu disais, des choses à décrypter que tu comprends pas comprendre le premier visionnage, mais que tu vas peut-être comprendre au deuxième visionnage. Du coup, t'es hyper attentif pour avoir des indices. Mais là, c'est du ça. Coup, à chaque fois qu'il y avait une vision, je suis genre, allez, on va avoir quelque chose de nouveau. Et bim, on avait encore Shani.
Mais oui.
C'est bon. Puis toujours la même chose, quoi. Et alors, certes, c'est pas tout le temps exactement la même chose. Il y a des petites choses différentes, blabla. Mais c'est trop. Enfin, ouais.
C'est trop.
C'est trop. Alors après, trop. Par contre, j'ai trouvé que ça rendait le moment où Paul se retrouve face à Shani en vrai assez fort parce qu'il est genre. Mais c'est elle. Et nous, on était genre, bah oui, enfin. Et du coup, elle est plus dans cette espèce d'aura magnifique. Elle est toujours très belle, mais c'est une guerrière, quoi. C'est plus cette espèce de gravure de mode. C'est vraiment une guerrière. Et du coup, j'ai trouvé que ça a donné la réaction de Paul très, très mignonne, tu vois. Genre, oh, c'est la fille de mes rêves.
C'est vrai.
Mais du coup, c'est vrai que pareil, j'ai trouvé ça trop répétitif. Et pour le coup, ouais, c'est un choix, clairement, pour donner à Shani un peu plus de place, parce que sinon, on l'aura vu que pendant 5 minutes à la fin, sachant qu'on s'est annoncé que ça sera potentiellement le personnage principal de la deuxième partie, enfin, qu'on verra plus à travers elle l'histoire, mais bon, je suis d'accord sur le problème de rythme que ça fait.
Je suis contente de ne pas être la seule à l'avoir remarqué du coup, donc ça a dérangé.
Mais tu vois, moi, les visions préférées, c'était celles où il y avait pas Shani du coup, où on voit.
Bah du coup oui, parce que c'était nouveau.
On voit Jessica dans cette situation. Enfin, tu dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est. Et du coup, tu dis ah, elle attend une fille. Du coup, Paul va avoir une sœur. T'es genre ah, mais du coup la sœur, qu'est-ce que ça va être. Enfin, tu vois, là tu te poses plein de questions. Quoi.
Ouais, c'est ça. Le dernier point où j'ai eu un peu de mal, là c'est parce que c'était au niveau compréhension, alors j'ai dû débattre avec ça avec Thibaut, du coup en sortant du cinéma. En fait j'ai vraiment eu du mal à comprendre la stratégie de l'Empereur. J'ai compris vraiment qu'après coup, hein, du coup qu'il s'allie à la maison Harkonnen pour détruire les Atreides, parce qu'il a peur de l'influence de l'étau Atreide, et que du coup il envoie sur Arrakis en disant aux Harkonnen, ok vous avez plus la planète, alors que c'était un gros gain quand même, mais vous la récupérerez après, parce qu'on va faire une petite alliance et vous allez les battre, et ce sera plus facile de les battre sur Arrakis que s'ils étaient sur leur planète à eux. C'est un peu ça.
C'est plus... comment dire, machiavélique que ça, en fait. Parce que en gros, l'Empereur, il a un problème avec les deux maisons. Il a un problème avec les Harkonnen, parce que ça fait 80 ans qu'ils sont sur Arrakis et qu'ils s'en sont mis mais plein les poches. Genre, ils sont devenus plus riches que lui. Et ça, c'est dit dans le film. Hein. J'avais pas capté au début, mais voilà, ils disent quand même que les Harkonnen, ils ont tellement exploité Arrakis qu'ils sont devenus plus riches que l'Empereur. Et c'est un problème pour l'Empereur d'avoir une grande maison plus riche que lui. Donc du coup, il a voulu faire d'une pierre deux coups, en fait. Parce qu'il a d'un côté les Harkonnen qui sont devenus beaucoup trop riches, à son goût.
Ouais.
Et l'autre côté, Leto, qui est juste la grande star des grandes maisons et qui a beaucoup trop d'influence sur les autres grandes maisons. Et donc du coup, il se dit, bon bah allez, d'une pierre deux coups, je retire Arrakis aux Harkonnen. Je mets les Atreides sur Arrakis. Donc pour le reste des grandes maisons, ça paraît comme quelque chose de logique. Parce que faut pas laisser les Harkonnen devenir trop riches, c'est pas juste pour tout le monde. Ça, il faut qu'il y ait un équilibre en gros. Et après, en fait, il y a vraiment une question de dissimuler sa stratégie sous quelque chose d'acceptable pour le reste de la galaxie, quoi, en gros. Parce qu'en gros, les guerres entre maisons sont autorisées. Ça paraît acceptable que les Harkonnen veulent se venger des. Se venger des Atreides. Et du coup, j'ai même découvert que dans ce monde-là, c'était même légal.
Mais...
donc du coup, c'est une manigance en sous le manteau de s'allier avec les Harkonnen et de dire aux Harkonnen, non, vous en faites pas, je vous retire Arrakis, mais je vous donne des Sardaukar pour vous permettre de détruire les Atreides, pour vous assurer de détruire les Atreides. Et parce qu'en plus, parce que ça coûte excessivement cher aux Harkonnen de faire cette expédition pour détruire les Atreides. Du coup, d'une pierre deux coups, ils se débarrassent des Atreides et les Harkonnen, ils se retrouvent mais moins riches.
Moi, du coup, ce que je comprends pas, c'est que il a pas peur, l'empereur, que les Harkonnen se retournent contre lui.
Il a les Sardaukar, donc c'est ça le problème.
Ah oui, c'est vrai, il a les Sardaukar. Et ils avaient oublié cela.
Bah ouais, en fait, en gros, c'est tout ce que dit après aussi, tu sais, quand ils se retrouvent dans la station météo, là, après tout ça, il y a Paul qui dit, il nous est arrivé ce que toutes les maisons ont peur qu'il leur arrive, c'est que les Sardaukar arrivent et nous anéantissent, quoi. Donc ouais. c'est ce qui maintient les grandes maisons à la merci de cette De l'empereur, quoi. Mais d'un autre côté, il dit, là, moi, je... Enfin, lui, il veut se venger, forcément, Paul. Et du coup, il dit, bon, on va prévenir les autres grandes maisons du Landstrad de ce qui nous est arrivé. Et du coup, ils vont se retourner. Et si on se met tous contre l'empereur, et surtout si on utilise les Fremen, qui sont encore plus forts que les Sardaukar, pour se battre contre l'empereur, là, on va s'en sortir. Et là, on peut renverser l'empereur, quoi. Mais c'est vraiment toute cette question de pouvoir, de contre-pouvoir, les Sardaukar qui sont plus forts que tout le monde. Et du coup, ces maisons qui, individuellement, n'ont aucune chance contre en se rebellant, quoi.
Ouais. Et comme quoi, on est déjà à presque une heure. on a bien fait de faire deux épisodes. On va partir rapidement parce que du coup, on va essayer de pas trop spoiler. Puis voilà, t'en as déjà un peu parlé. Des petits détours qui peut y avoir avec le roman.
Oui, donc justement, le roman, j'en ai déjà pas mal parlé, hein, des différences, j'ai commencé à lire le roman juste après avoir vu le film, et du coup, j'ai fini la partie du roman qui correspond au film, et donc j'ai revu le film après avoir fini cette partie-là, pour voir vraiment les différences et les ressemblances. Alors, il y a des scènes qui sont, des scènes emblématiques qui sont vraiment retranscrites mot pour mot, il y a même des morceaux de dialogue qui sont exactement les mêmes. La scène du Gom Jabbar au tout début avec la boîte à l'intérieur, l'intérieur de laquelle il y a la souffrance. Ça, c'était exactement la même chose. Par contre, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a des choses qui sont plus explicites plus tôt dans le film et à l'inverse des éléments d'intrigue qui sont dévoilés d'emblée dans les premières pages du livre. En fait, il y a aucun suspense, par exemple, sur la trahison du docteur Yuei, genre deuxième chapitre. T'es dans la tête du docteur Yuei et tu sais qu'il va les trahir. Donc c'est très différent de ce point de vue-là. Et du coup, j'ai préféré la trahison du docteur Yuei, la version dont c'était traité dans le livre, parce que du coup, même si ça manque de suspense, dans le film, ça tombe un peu comme... Enfin, genre, bon, bah ok, c'était un peu obvious, pourquoi personne l'a soupçonné, alors que là tu rentres vraiment dans sa tête, tu comprends plus tout son conflit intérieur vis-à-vis de sa femme, et en fait il y a vraiment toute une partie qui est vraiment coupée dans le film par rapport au livre, sur cette paranoïa sur Arrakis en attendant qu'il se passe quelque chose, en fait en attendant qu'il y ait un assassinat, et du coup il y a une espèce de suspicion qui tombe sur Dame Jessica, en fait elle se retrouve suspectée. Et il y a tout ce côté-là avec Yuei qui est genre, oh là là, pourvu que je me fasse pas griller. Et donc, j'ai trouvé ça un peu plus, même si on sait qui est le traître, j'ai trouvé le suspense plus prenant dans le livre. Mais voilà, c'est pour vous donner peut-être envie de rien que pour cette partie-là, sur Arrakis, dans Arrakin, j'ai trouvé ça plus intéressant.
Ok.
Et mieux géré. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Non, sinon, si, juste une petite chose. Par rapport au personnage un personnage qui est, à mon avis, pas très bien rendu dans le film, et que je trouve beaucoup plus intéressant dans le livre, mais je vais pas en dire trop plus, c'est Gurney Halleck, le personnage de Josh Brolin, celui avec qui Paul s'entraîne au début avec les boucliers. D'ailleurs, on n'a pas parlé de boucliers, mais c'est trop cool, les boucliers. voilà, il est plus présent. Et presque, en fait, j'ai trouvé que la relation entre Paul et Duncan... Dans le livre, c'est plus entre Paul et Gurney, en fait. Et Gurney, j'ai trouvé plus développé, en fait. On se rend pas compte que c'est un vrai poète qui joue normalement de la musique. Il a toujours sa petite balisette, qui est une espèce de sitar avec lui et qui joue toujours de la musique en fait dans le livre et qu'il a ce côté un peu barde en fait en même temps que guerrier et ça ils l'ont pas trop gardé dans le non. film. J'aurais bien aimé entendre Josh Brolin chanter.
Mais... ça, je suis pas sûre qu'il chante.
Bah il a une belle voix donc pourquoi pas. Mais ouais du coup je bah j'ai hâte de la suite parce que Gurney dans le film bah on sait pas trop ce qu'il devient. On le voit attaquer les soldats mais on le voit pas mourir donc on peut espérer qu'il est vivant. Donc j'espère voilà qu'on va retrouver ce personnage dans la suite. Voilà. Je veux pas en dire plus mais
non mais bon j'ai envie de te dire tu m'as donné envie de lire le livre. Je l'ai déjà acheté donc j'avais déjà envie avant mais non j'ai hâte de le lire.
Ouais et juste très rapidement par rapport aux visions, parce qu'on a beaucoup parlé des visions, il n'y a pas du tout de vision de Paul dans la première partie du roman.
Oh bah
et d'ailleurs,
alors.
On a assez peu on a assez peu le point de vue de Paul. En fait, on est beaucoup plus du point de vue de Paul dans le film que dans le livre. Et c'est qu'à un moment décisif que tout bascule et que du coup on vit tout à travers, enfin on vit beaucoup plus de choses à travers Paul, qu'est la scène de la tente en fait dans la tente dans le désert. Pendant que son père est assassiné. Et c'est là qu'il y a tout qui se déclenche, en fait, dans sa tête, qu'il y a les visions qui arrivent. Et on sait avant qu'il... mais ça arrive aussi comme ça dans le film, mais c'est encore plus impressionnant dans le livre. Et du coup, on n'a pas cette répétition de scène où « Oh, j'ai vu une fille dans mon rêve. Oh, j'ai vu une fille dans mon rêve. » C'est juste mentionné après coup, où il dit... Oh, j'arrête pas de rêver de la même fille, mais il le dit qu'une fois, tu vois, ça suffit.
Ouais.
Mais du coup, c'est lié, c'est normal, c'est une adaptation qui fait que il fallait trouver un moyen de le rendre à l'écran, mais c'est vrai qu'on est d'accord que c'est peut-être pas forcément le meilleur choix. Voilà, lisez le livre, c'est trop cool.
Je pense qu'on va tous lire le livre. On va passer à la dernière partie sur. Trois thématiques qu'on aurait aimé revenir dessus, voilà, qui sont importantes pour le film et le livre. Je pense qu'on pourra carrément, même en certaines, les développer plus quand il y aura un Dune 2. Parce que oui, on l'a dit, hein, on est sûr qu'il y aura un Dune 2. Donc je pense que voilà, là, on va essayer de voir par rapport au film 1 un petit peu ce qu'on y retrouve, ce qui est important pour nous. Mais c'est sûr qu'on détaillera ça plus profondément par la suite. Et la première grande thématique, c'est l'écologie.
Ouais.
Et pour débuter cette partie, j'avais envie de citer Denis Villeneuve, puisqu'il a dit dans une interview « J'ai découvert le livre quand j'étais adolescent, le livre d'une, on a compris, et j'ai été totalement fascinée par sa poésie, par son propos sur la nature, car le vrai protagoniste de Dune, c'est la nature. » À l'époque, j'étais étudiant en sciences et j'hésitais entre devenir réalisateur ou biologiste. Du coup, l'approche d'Herbers de l'écologie me semblait nouvelle, riche, poétique, puissante. Wow. Et on parlait de... Ouais, c'est beau. Hein. Et on parlait de l'immensité qu'on ressentait en regardant le film tout à l'heure. Et bien justement, Denis Villeneuve, il a expliqué que c'était le but, c'était totalement volontaire, parce qu'il souhaitait justement montrer l'immensité de la nature par rapport à l'homme, qui apparaît du coup comme une petite fourmi, et que ça permettait de replacer l'homme à sa place dans l'univers.
Ouais, et j'ai aimé à la fois ça, sur l'immensité, puis à la fois sur ce focus sur la petite souris des sables, tu vois.
Oui.
Alors, il y a un sens à cette souris, je ne spoil pas le livre, mais il y a un sens par rapport à cette souris.
D'accord.
mais du coup, c'est très beau, cette attention aux détails, et puis, ouais, enfin, c'est... D'ailleurs, bah, du coup, Frank Herbert, il était... pionnier hein, au niveau, il était très 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 intéressé aussi par l'écologie et très érudit là-dessus et c'était vraiment un des pionniers de l'environnementalisme hein. Dans les années 60 il parlait de choses qui aujourd'hui semblent tu dis waouh, enfin il a un discours qui dans les années 60 pouvait paraître un peu marginal et qui aujourd'hui tu dis mais
totalement précurseur en fait.
Bah précurseur et en même temps qui fait peur parce que tu dis
oui.
Putain, il y a des gens intelligents qui savaient déjà il y a
pourquoi on les a pas écoutés.
Ouais, enfin c'est un double côté, tu dis que Dune soit aussi moderne dans son discours sur l'écologie, ça c'est pas bon signe.
Non. C'est clair. Moi, en fait, la partie écologie, je pense qu'on peut l'appréhender de plein de manières différentes. Parce que bah déjà il y a ce côté un peu voilà immensité, l'homme replacé à sa place et tout, mais moi la manière dont je l'ai appréhendé, c'est que j'ai vu une terre aride avec une chaleur justement étouffante, avec un soleil qui brûle tout, enfin très peu d'êtres vivants, aucune plante, et pour moi l'un des gros enjeux du film, c'était vraiment l'importance de cet écosystème, de cette planète et de sa préservation, mais pas en tant que enjeu de survie, mais juste en tant que pouvoir, avec deux visions. On a celle des Arconins qui et de l'empereur qui subissent ce climat mais qui veulent à tout prix le préserver pour pouvoir continuer à extraire de l'épice et à s'enrichir et avoir du pouvoir, etc. Ça, c'est pas bien. Même si c'est bien de préserver un écosystème, mais de cette manière-là, c'est pas bien. Et de l'autre, on a la vision des Fremen qui, eux, ils ont réussi à s'adapter, à vivre dans cet environnement de manière hyper ingénieuse, donc avec cette armure, enfin ce distille dont on a parlé tout à l'heure. Mais du coup, eux, de ce que j'ai compris, ils veulent quand même modifier l'écosystème pour créer une planète gorgée d'eau qui là est super rare, et à ce moment-là, bah il y aurait plus d'épices. Et ça, je l'avais pas bien compris dans le film, mais du coup, j'ai trouvé ça vraiment captivant après coup à réfléchir à quelle serait la meilleure solution entre guillemets.
Bah ouais, moi c'est vrai que j'ai été tout de suite marquée par ce passage là dans la station météo où on comprend qu'il y a toutes ces recherches pour restaurer la vie en gros sur Arrakis et en refaire une planète plus facile à vivre, on va dire. Mais du coup, ouais, ce rapport, c'est vrai que c'est dit clairement, hein, là, Liette Kynes, elle dit clairement que ils ont stoppé ces recherches-là, enfin qu'ils ont été obligés de stopper ces recherches-là pour préserver l'exploitation de l'épice. Mais du coup, j'ai hâte d'en savoir plus, notamment sur le rapport des Fremen à l'épice, parce que du coup, s'ils ont cet objectif, et ils ont cet objectif de restaurer leur planète, de faire un paradis, quoi. Et ben, l'épice a quand même. Et puis il y a ces vers de sable aussi, avec lesquels ils ont apparemment. Enfin, avec qui ils sont potes, on dirait. Donc du coup, il y a toute cette question de. Le rapport entre l'épice et la nécessité de garder le désert pour avoir l'épice et de cet équilibre. Voilà, c'est pareil, ça me pose plein de questions aussi.
Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'on va pouvoir faire un prochain épisode pré ces films 2 hyper captivant en se renseignant un peu sur tout ça.
Bah, une fois qu'on aura lu surtout la suite, quoi.
C'est ça. Clair.
Quelque chose qui est complètement lié, du coup, forcément à l'exploitation de l'épice, c'est aussi et au Fremen, il y a un discours, je trouve, assez fort sur le colonialisme capitaliste. Ouais. Et puisque les Fremen, même si c'est, on rappelle, c'est des humains, hein, donc ça a beau être présenté comme le peuple autochtone d'Arrakis, c'est un peuple autochtone au sens, comme au sens où on l'entend, en fait, d'humains qui sont arrivés bien avant les autres humains qui vont venir exploiter cette terre. Ça reste des humains. Ils sont de la même espèce. Je sais pas, j'aime même bien le répéter, parce qu'on a beau être sur des planètes différentes, on est tous cousins.
Ouais.
Et en fait, on commence le film par le point de vue de ces Fremen, vis-à-vis des colons, quoi. Vis-à-vis des Arconen qui sont vraiment l'archétype de l'esclavagiste ultra-capitaliste complètement brutal qui détruit tout sur son passage et qui a aucun, ne serait-ce qu'aucun, pour eux, la vie humaine, c'est rien par rapport au profit, quoi. C'est ça. Ouais. Et les Atreides qui sont, au contraire, plus humanistes. Alors, qui ont quand même une position colonialiste quand même, puisque certes ils veulent traiter les Fremen avec respect, le fait qu'ils fassent la démarche d'envoyer Duncan qui du coup revient en disant mais faut pas les prendre pour des sauvages, ils sont hyper impressionnants, ils ont une technologie qui est carrément plus avancée que la nôtre sur certains points, et mais il y a quand même cet objectif du Duc Leto, il le dit, de les utiliser. Il veut récupérer ce pouvoir du désert. Et pourquoi il veut récupérer ce pouvoir du désert ? Pour avoir un contre-pouvoir face à l'empereur. Pour pouvoir justement avoir des soldats Fremen qui sont les seuls à pouvoir faire face aux Sardaukar. Et ça, c'est pas dit très explicitement, mais on le sent. Et puis on sent que c'est Paul. Paul, il va suivre ce plan-là, quoi. Et du coup, c'est. Là, c'est un rapport, tu dis. Bah, Paul, ça reste quand même un, même s'il comprend les Fremen, qu'il a une espèce de relation assez fusionnelle avec eux, avec cet univers, c'est quand même l'envahisseur qui va
Oui, c'est
utiliser
ça, en
ce
fait.
peuple et qui va potentiellement, on l'a vu dans ses visions, l'emmener vers une guerre qui va faire des milliers, des millions, des milliards de morts. Donc c'est voilà, c'est se poser
Oui, mais
question.
ça m'a fait typiquement penser tout simplement à la France et qui a utilisé ses colonies pour la guerre mondiale.
Ouais,
Et
carrément.
je trouvais ça hyper intéressant, effectivement, qu'il te montre ça. Et pareil, que comme tu le dis, hein, que ça reste subtil, c'est pas hyper explicite, mais avec les visions de Paul, tu comprends que c'est ce qui va devenir. Et j'ai hâte de voir la suite, du coup, pour ça. Et tu vois, on parlait tout à l'heure qu'il y avait vraiment les gentils et les méchants. Bah, au final, on comprend que pas tant que ça.
Bah
Et
oui, et puis je sais pas,
c'est pas plus
visuellement,
mal.
hein, je l'ai mentionné rapidement, mais Paul, je trouve qu'il a une aura qui est. Enfin, certes, c'est notre protagoniste, c'est lui qu'on suit, mais je trouve pas qu'il a une aura de héros au sens sauveur, quoi. Il a vraiment cette ambivalence où... Et puis, il est piégé. D'un côté, il est piégé en sent qu'il essaye de se battre contre ça. Il veut pas qu'il y ait une guerre sainte en son nom. Et d'un autre côté, il le dit qu'il veut renverser l'empereur en utilisant les Fremen. Donc, c'est... Ouais, à suivre. Mais bon, il s'habille tout en noir. Donc... C'est un signe.
C'est un signe. On va passer sur la dernière partie.
Ouais, alors la partie qui est justement, je pense qu'on va en plus en savoir
Sur
la
dans le film
suite.
2.
Ouais.
Ouais, je pense aussi. Parce qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure, du coup, de la figure de l'élu de Paul qui a un peu un double sens en fonction de qui en parle. Et en fait, il y a vraiment toute une partie religion, spiritualité dans Dune, bah, notamment avec les Bene, j'arrive jamais à le prononcer.
Bene Gesserit.
Bene Gesserit, qui sont hyper présentes et qui ont vraiment ce côté. On voit pas de Dieu, elles parlent jamais de Dieu, mais elles ont un côté un peu secte, un peu religion. Et je sais plus où j'ai lu ça, mais Frank Herbert se serait inspiré des jésuites pour imaginer cet ordre qui finalement ne prétend pas au pouvoir, mais qui tire les ficelles un peu dans l'ombre.
Oui, bah Gesserit, c'est une dérivation de du
Ah
mot
oui, j'ai même pas
jésuite,
capté.
ouais.
J'ai même pas capté. Tout à fait.
C'est ça. Ouais, non, mais c'est très intéressant. Bah, c'est pour ça, j'ai hâte qu'on en sache plus sur les Bene Gesserit et la manière dont ils utilisent la religion. On a un peu, c'est un peu ouvert, mais moi, enfin, j'ai hâte de voir l'évolution du personnage de Jessica parce que bah, rien ne serait-ce qu'avec cette fille. Voilà,
Ouais, non
je
mais.
me pose quand même des questions. Et puis, du coup, son rapport avec le reste de l'ordre. Pareil, légère. Enfin, différence quand même entre le livre et le film sur cette fin, et je trouve que du coup cette finale dans le livre est beaucoup plus marquante. Je dirais pas complètement pourquoi, mais entre autre pour le rôle de Jessica dans cette scène du combat et
D'accord.
de son rapport avec les Fremen. Il y a beaucoup plus du coup beaucoup plus d'emprise spirituelle qu'elle a sur les Fremen, qu'on sent potentiel en tout cas. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Et j'ai hâte de voir le développement de sa relation avec le personnage de Javier Bardem,
Ah oui,
Stilgar.
moi aussi. J'ai vraiment hâte de voir tout ça.
Bon voilà, je pense que...
Deux beaux épisodes d'une heure chacun.
Voilà, on s'est fait plaisir, on a essayé d'aller à fond, de rendre justice à ce film, même s'il a des défauts, on l'a dit, on voulait pas le traiter comme un film parfait, c'est pas un film parfait, mais c'est tellement
Non.
plein de promesses que on voulait partager cet enthousiasme avec vous.
Exactement. Donc on espère déjà que vous aurez aimé Dune. Mais je pense que si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, c'est que vous avez aimé. Quand c'est rare que j'écoute des épisodes de podcast jusqu'au bout de films que j'ai pas aimé, si c'est pour entendre des gens dire à quel point c'est génial.
Sauf
Donc.
quand là je vous fais une petite promo gratuite, sauf quand on écoute l'épisode de Il était un plus sur les suites Disney, parce qu'on sait que ça va être des trucs
Je
des trucs
maintiens que j'aime Pocahontas 2. J'assume jusqu'au bout. Et d'ailleurs, dans le Discord de Men's Suite Actu, j'ai remarqué, parce que moi j'étais toute seule là dans mon épisode, il était un plus avec les copains, ils étaient tous contre moi avec Pocahontas 2, mais dans le Discord de Men's Suite Actu, eh ben il y en avait plusieurs qui étaient d'accord avec moi, et voilà, je suis très contente.
Si vous voulez savoir à quoi on fait référence, allez écouter l'épisode de Il était un plus sur les suites Disney Direct VHS, qui est absolument hilarant, c'est un délice à écouter,
merci. Voilà. T'es mignonne, merci beaucoup. C'était très drôle à tourner, le débat était enflammé.
C'est ça.
Bah écoutez, passez une bonne journée, soirée, week-end, semaine, tout ce que vous voulez en fonction du moment où vous nous écoutez. Et puis on vous dit à bientôt.
À bientôt.
Ah, comme... mince, c'est un mot qui veut dire quelque chose.
Bah, distiller, ouais, c'est...
Non, c'est un truc de plante, non?
Ah, non, pistille, c'est
pistille, je confonds. On pourra non, là, couper ça.
Dans l'idée, de récupérer l'eau du
oui,
corps,
oui,
quoi.
Oui, mais, oui, c'est vrai, une distillation comme en Chine. Mm-hmm. On coupera ça au montage, hein, que je sais pas ce que c'est une pistille.
Peut-être toi qui vas essayer de monter.
Je me couperai, je m'auto-censurerai. Ou je laisserais ça et je serais ridicule. N'empêche, bon, on le sait, hein, que j'ai des lacunes en français, voilà, dans les mots de vocabulaire. D'ailleurs, j'ai fait un quiz, je t'ai pas raconté, j'ai fait un quiz avec des copains le week-end dernier. Et j'ai fini troisième quand même, hein. Quiz de culture générale, etc. J'étais impressionnée par moi-même.
Ah bon?
Ouais, bah oui, comme quoi.
Après, je sais pas quel était le niveau général du groupe.
Non, il était élevé quand même. J'ai été dernière pendant longtemps avant de faire une remontada.
Très bien.
Voilà. Bravo. Merci. Merci. Bref. Arrêtons tergiverser, ça se dit?
Digresser.
Ça se dit pas tergiverser?
Si, mais je suis pas sûre que ça se dit dans ce contexte. Mais bref, c'est pas grave.
Ah,
on va pas
ça,
continuer
ça,
oui. Voilà pourquoi on fait un épisode de 2h30 sur Dune.
Oups. Désolée.